Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse spéciale sur les droits de l'homme que nous organisons ce jour vendredi 23 mars 2018 et qui porte sur le rapport thématique public publié le 19 mars 2018 et intitulé « Recours illégal, injustifié et disproportionné à la force lors de la gestion des manifestations publiques en République démocratique du Congo de janvier 2017 à janvier 2018. Lors de cette conférence de presse, nous allons également aborder les questions sur les principales tendances durant le mois de février 2018. Cette conférence spéciale de presse ad hoc aura donc comme invité un animateur principal, ce sera le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Abdul Aziz Choy. Il pourra également répondre à des questions relatives sur les discussions ou dialogues interactifs renforcés lors du Conseil des droits de l'homme. M. Abdul Aziz Choy, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse.
Bonjour Théophane et merci. Mesdames et messieurs les journalistes, merci pour votre présence ce matin. Pour cette conférence de presse spéciale du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Comme M. Kinda vous l'a indiqué, j'ai accompagné la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour le dialogue à Genève, pour le dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme en RDC lors de la 37e session du Conseil des droits de l'homme qui va se clôturer ce soir. Je pourrai à la fin prendre quelques questions concernant le dialogue interactif que vous avez certainement suivi à travers le UN Web TV, parce que c'était diffusé en direct le 20 mars. L'objectif principal de cette conférence de presse est de discuter un peu de notre dernier rapport thématique qui a été publié lundi 19 mars. Et je vous exposerai également brièvement, comme d'habitude, les principales tendances en matière de droits de l'homme observées au mois de février 2018. Alors, concernant le rapport public sur le recours illégal, injustifié et disproportionné à la force lors de la gestion des manifestations publiques en République démocratique du Congo de janvier 2017 à janvier 2018, lundi dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la MONUSCO ont publié conjointement un rapport thématique sur le recours illégal, injustifié et disproportionné à la force lors de la gestion des manifestations publiques en République démocratique du Congo pour la période de janvier 2017 à janvier 2018. Les rapports se fondent sur les informations recueillies au cours des 6 journées de mobilisation et décrit les actes de répression commis par les services de sécurité et les forces de défense congolaises dans le cadre de rassemblements publics dont certains ponctués par des actes de violence perpétrés par des manifestants. Il contient des références aux normes du droit international des droits de l'homme et aux normes internationales relatives à l'usage de la force par les responsables de l'application des lois, en particulier les principes d'égalité, de nécessité, proportionnalité, de précaution et de responsabilité. Le rapport souligne également que l'utilisation illégale de la force a été systématiquement encouragée, non seulement par le déploiement massif des forces de sécurité et de défense, en particulier des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, aux côtés d'agents de la police nationale congolaise pour dissuader ou réprimer les manifestants, mais aussi par le manque d'efforts en matière de lutte contre l'impunité pour situer les responsabilités. Le rapport rappelle des faits dont nous vous avons tenu régulièrement informé, à savoir qu'entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2018, au moins 47 personnes, dont 4 femmes et 3 enfants, ont été tuées par des membres des forces de sécurité et de défense lors de manifestations ou dans le cadre de ces manifestations, ainsi que d'autres violations des droits de l'homme. Dans le communiqué de presse conjoint publié par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et la MONUSCO, Le Haut Commissaire et la représentante spéciale notent les initiatives encourageantes du gouvernement, notamment la création d'une commission mixte d'enquête à la suite des violations commises lors des manifestations du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018. À la demande du gouvernement congolais, le rapport de la commission d'enquête mixte a été annexé en guise de commentaires et de réponses au rapport à notre rapport thématique. Je voudrais justement revenir sur cette commission mixte qui est l'un des développements les plus importants de février 2018. Cette commission mixte a été créée pour enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme en lien avec les manifestations du 31 décembre et du 21 janvier 2018 par la ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo. Elle a pu compter sur l'appui technique du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans ses conclusions, le rapport de la commission a indiqué avoir déterminé qu'au moins 14 personnes ont été tuées, 65 blessées et 40 ont été victimes d'arrestations et de mauvais traitements lors de ces deux journées de manifestation. Ces recommandations sont particulièrement intéressantes et recoupent plusieurs que nous avions déjà préconisées, plusieurs recommandations que nous avions nous-mêmes préconisées en tant que bureau conjoint. Ainsi, la Commission a prôné l'ouverture de l'espace démocratique dans le contexte électoral et l'interdiction de l'intervention de l'armée dans les missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. La Commission a également insisté sur la nécessité de mener des enquêtes judiciaires sur les violations et atteintes aux droits de l'homme documentées et d'adopter des réparations pour les victimes, notamment par la création d'un fonds dédié. Enfin, il faut noter que grâce à cette commission, plusieurs victimes ont pu recevoir des soins médicaux. Concernant les tendances à la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo au cours du mois de février 2018, comme d'habitude, j'ai le plaisir de vous les présenter. Telles que ces tendances sont documentées par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au cours du mois de février 2018. Je n'ai plus besoin de vous rappeler que ces tendances sont partagées avec les autorités tous les mois, avec les autorités nationales et provinciales, afin qu'elles prennent les actions nécessaires, notamment pour traduire en justice les auteurs présumés des violations documentées. En février 2018, le Bureau conjoint a documenté 525 violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, soit une diminution par rapport au mois de janvier 2018, où nous avions enregistré 744 violations. Les agents de l'État sont responsables de 66% de ces violations, dont l'exécution extrajudiciaire d'au moins 42 personnes. Les groupes armés sont quant à eux responsables de 34% des violations, dont l'exécution sommaire de 58 personnes. Près de 76% des violations documentées ont été commises dans les provinces affectées par le conflit. Pour la première fois depuis septembre 2017, le nombre de violations documentées dans ces provinces affectées par le conflit est en nette diminution. À l'instar des quatre derniers mois, les agents de l'État y ont commis davantage de violations que les groupes armés, environ 56% pour les agents de l'État et 44% pour les groupes armés. Les militaires des FARDC sont les principaux responsables parmi toutes les parties au conflit, 32%, tandis que les combattants des forces de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, sont les principaux responsables parmi les groupes armés totalisent 10%. La grande majorité de ces violations a de nouveau été enregistrée dans la seule province du Nord Kivu, où nous avons noté 42% des violations attribuées aux groupes armés et des violations des droits de l'homme en général, suivies des provinces de l'Ituri et du Sud Kivu. Le Bureau conjoint regrette l'augmentation de ce mois du nombre de violations sexuelles liées au conflit qui ont fait 88 victimes, dont 20 filles, dont la majorité commises par les combattants des groupes armés. Les 24% des violations des droits de l'homme perpétrées dans les zones non affectées par le conflit sont presque toutes attribuables à des agents de l'État, exception faite de 3 violations qui ont été commises au Haut-Katanga par des Maïmaï Bakata-Katanga et des miliciens Twa. Parmi ces violations dans les zones non affectées, 54% sont le fait de la PNC. Plus d'un quart de ces violations ont été documentées au Congo central, au moins pour 32 violations. Suivi des provinces du Haut-Katanga, 20 violations, de Kinshasa, 19 et de l'Équateur, 17. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a par ailleurs documenté 108 violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales liées à des restrictions de l'espace démocratique sur l'ensemble du territoire, soit une légère augmentation par rapport au mois précédent. Une fois encore, les agents de la PNC ont été les principaux auteurs, plus de 50%, et les membres d'organisations de la société civile, les principales victimes, au moins 57 victimes. Le mois sous revue a de nouveau été marqué par la répression violente de manifestations pacifiques, notamment celle du 25 février, où les actions des forces de sécurité lors des manifestations convoquées par le comité laïque de coordination ont entraîné la mort par balle d'au moins une personne à Mbandaka et d'un activiste de la société civile à Kinshasa. Par ailleurs, à travers le pays, au moins 42 personnes ont été blessées, dont 16 par balle, et 194 personnes ont été arrêtées arbitrairement. Elles ont toutes été libérées par la suite, toutes les personnes arrêtées. L'agent de police auteur du meurtre du manifestant de Mandaka a été jugé le 26 février en procédure de flagrance par le tribunal militaire de garnison de Mandaka. La cour l'a reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité et au paiement solidairement avec l'État congolais de dommages et intérêts à la partie civile. En février, mon bureau a continué l'appui aux juridictions militaires dans le cadre de la lutte contre l'impunité. À notre connaissance, au moins 17 militaires des FRDC ainsi que 4 agents de la PNC ont été condamnés pour des crimes relatifs à des violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République. Enfin, mon bureau a également pris part à 23 activités de renforcement des capacités en matière de droits de l'homme en faveur de plus de 826 personnes, dont 24% de femmes sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Merci de votre attention et l'intérêt fidèle que vous portez aux questions des droits de l'homme. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Aziz Choy. Je rappelle que vous êtes le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Et votre présentation s'est axée essentiellement sur deux points. Le recours illégal injustifié et disproportionné à la force lors de la gestion des manifestations publiques en République démocratique du Congo de janvier 2017 à janvier 2018 et également sur les principales tendances pour février 2018. Voilà qui nous conduit à la partie questions-réponses. Nous avons environ une trentaine de minutes. Et je vous demande de bien mettre vos appareils sous silencieux ou les éteindre carrément pour ne pas perturber ces échanges. Donc, première question à ma droite. Oui, vous donnez le micro.
Merci. Benoît Kambéré pour le journal Émergence et les échos de la région des Grands Lacs. Monsieur le directeur, vous avez fait un rapport exhaustif qui déplore des morts, qui déplore des violations de droits de l'homme par les forces armées, la police. Il y a eu des morts, 14 par-ci, 12 par-là. Déjà, une seule vie fauchée, c'est trop. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que les Nations Unies font? Qu'est-ce que le Bureau conjoint des Nations Unies font pour que cela cesse? Un seul militaire a été, un seul militaire dernièrement au mois de février à Mandaka a été traduit en justice. Pourtant, c'est depuis l'année passée, tous les mois, vous nous dites que les militaires, les policiers, ce sont les principaux violateurs des droits de l'homme. Monsieur le directeur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette situation s'arrête? J'ai dit, monsieur le directeur.
C'est sûr. D'accord. Merci, monsieur Kambéré. Je pense que au cours des différentes conférences de presse, je me suis largement exprimé sur la situation dans le pays et les violations des droits de l'homme qui y ont cours. Et j'ai à chaque fois dit concrètement les difficultés liées à la situation. Les préoccupations que nous avions en lien avec les violations constatées et le fait effectivement qu'il y avait peut-être beaucoup plus d'efforts à faire pour lutter contre l'impunité. Et c'est ce que le rapport mentionne. Le rapport revient sur un certain nombre de faits des constats, fait des analyses beaucoup d'analyses techniques sur des aspects techniques de l'utilisation de la force ici par les forces, services de sécurité et les forces de défense. C'est un aspect, de mon point de vue, qui est extrêmement intéressant et qui tend plus ou moins à indiquer et guider les acteurs congolais, en particulier les autorités, vers les mesures à prendre pour définitivement encadrer et revenir à ce qui est acceptable et conforme aux normes et standards pour ce qui est de l'utilisation de la force. Je rappelle encore une fois que le recours à la force est strictement encadré. Le recours légitime, l'usage légitime de la force est autorisé pour les forces de sécurité et de défense, mais encadré de façon stricte. Donc l'utilisation doit répondre à des principes. Et je les ai dit, ce sont ces principes-là qui sont étudiés et analysés tout le long du rapport. C'est ce que nous disons. C'est la raison pour laquelle nous concluons en disant que l'utilisation de la force a été illégale et disproportionnée, de façon très claire dans le rapport. Alors, qu'est-ce que le Bureau conjoint des Nations Unies a fait? Nous avons un mandat qui nous est attribué par le représentant ici, le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dont je suis le représentant dans ce pays, mais nous sommes une composante aussi de la MONUSCO. Donc, un mandat institutionnel et également des résolutions qui nous sont données par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui dit dans quel sens nous devons travailler. Le travail que nous faisons, le travail des rapports de monitoring et de reporting participe à cela, constater ce qui ne va pas, mais de l'autre côté, il nous faut travailler avec les autorités pour faire en sorte d'influencer et de changer un peu le cours des choses. C'est ce que nous faisons. Cette partie-là, elle est la moins visible, ce que j'ai l'habitude de vous dire. C'est tout l'appui technique et le travail de plaidoyer avec les autorités judiciaires, avec le ministère de la Justice, le ministère des Droits humains, pour essayer de les amener à prendre les mesures nécessaires, les mesures correctives, ouvrir une enquête, faire les changements normatifs qui s'imposent, mais aussi aller dans le sens réellement d'ouvrir des procès qui permettent de façon très claire à lutter contre l'impunité. Il y a des insuffisances à ce niveau-là. Il faut le reconnaître. Et je crois que c'est pour ça que le rapport de la commission mixte d'enquête 31-21 a son importance. C'est pour ça que tout le monde se réjouit de ce pas important qui a été franchi par la publication d'un rapport qui reconnaît pour la première fois une responsabilité claire de la part du gouvernement attribuée à ses propres forces de sécurité et de défense. Et qui dit effectivement qu'il y a eu des manquements. Il y a des actions qui auraient dû être posées pour éviter que la violence qui est survenue dans le cadre de la gestion des manifestations publiques ait pu se produire, et qu'en conséquence, des mesures doivent être prises. Ces mesures sont normatives, ces mesures sont judiciaires, elles consistent à ouvrir des enquêtes et à initier des poursuites. Et dans ce cadre-là, c'est un résultat qui a été atteint. Il nous faut aller un peu plus loin. Aller plus loin consiste à créer les conditions pour que les conclusions les recommandations de cette commission puissent être mises en œuvre et que un nouveau départ puisse être trouvé afin que tout ce qui s'est passé ne puisse plus jamais se reproduire. Donc c'est un peu ce que je peux, les réponses que je peux vous apporter. Donc dans mon rôle et le rôle des institutions que je représente ici, c'est de travailler de façon technique avec le gouvernement pour que ceux qui ont été identifiés comme étant les auteurs, que des enquêtes puissent être menées pour les identifier de façon très claire et que une procédure judiciaire puisse être initiée à leur encontre et que des sanctions appropriées soient prises. Parce que nous pensons aussi que l'impunité contribue à quelque peu perpétuer la violence. Par ailleurs, il faut renforcer les capacités de ces institutions-là, la PNC et les forces armées, qui, l'utilisation de la force, pour beaucoup, est une symptomatique du manque de capacité et du manque de compréhension un peu des normes et des règles à respecter dans le cadre des interventions. Merci.
Deuxième question, permettez que j'aille à gauche, cette fois-ci, oui.
Merci, monsieur le directeur. Le rapport concerne une période de 2017 à 2018, janvier 2017-2018, inquiré de l'agence congolaise de presse. J'ai la nette impression que vous n'insistez pas assez sur le positif, sur les initiatives, sur la création, par exemple, d'une commission mixte 31-21. Mais vous insistez sur le négatif. C'est vrai, comme l'a dit mon ami Benoît, que une seule personne fauchée, c'est déjà mauvais. Mais j'ai l'impression que votre bureau n'insiste pas assez sur des efforts faits par le gouvernement de telle manière que la dernière manifestation, il y a eu, je crois, deux manifestants qui ont été fauchés. J'ai l'impression. Merci.
Merci pour votre question.
Oui, je dirais plutôt le contraire, parce que si vous lisez bien le rapport, vous verrez que nous avons beaucoup insisté sur les progrès qui ont été faits. Des progrès ont été faits, mais restent largement insuffisants au regard de ce qui s'est passé. C'est ce qui a été dit dans le rapport. Et nous pensons qu'il faut aller plus loin. C'est pour ça que le gouvernement nous a demandé de publier son rapport, le rapport de la commission, conjointement avec notre rapport, ce qui a été fait. Donc, les deux rapports doivent être lus parallèlement. Et je crois que le gouvernement, le rapport de la commission procède et arrive aux mêmes conclusions que nous. Elle va plus loin parce qu'elle désigne des institutions, des institutions que nous ne désignons pas, que la commission mixte désigne du doigt en disant c'est telle institution, c'est telle institution, c'est telle institution. Donc je crois que c'est un pas important, c'est un acte de haute portée symbolique qui a été posé par le gouvernement et qui a été reconnu à sa juste valeur, mais il faut aller plus loin. Il ne s'agit pas juste de produire un rapport, il faut aller plus loin que ça. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'il faut encourager, soutenir et continuer. La ministre des Droits humains mérite des félicitations et elle en a reçu. Elle a reçu des félicitations de la part de la communauté internationale. Pour ceux qui ont suivi la session des droits de l'homme à Genève, le Congo a été félicité pour l'effort et l'acte posé. Mais il nous faut aller un peu plus loin que ça. Merci.
Merci. Troisième question. J'aurais bien voulu avoir une dame cette fois-ci. Ah, il y a une dame ici. Donnez le micro à la dame. Je reviendrai vers vous après.
Merci. C'est Elvira Pandu pour le compte de la RTL. Monsieur Abdulaziz, une année déjà s'est écoulée depuis le décès de deux experts de Nations Unies au Kasaï. Je ne sais pas, la MONUSCO, les Nations Unies ont enquêté sur cette affaire. Peut-on déjà savoir les résultats de ces enquêtes ou bien les enquêtes sont encore en cours? Merci.
Sur les enquêtes concernant la mort des experts, je dois dire qu'en fait, mon bureau n'est pas impliqué dans les enquêtes parce que vous avez tous suivi la résolution 3533 du Conseil des droits de l'homme de l'année dernière qui crée l'équipe d'experts des Nations Unies qui est chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme au Kasaï de façon large. Mais cette commission s'intéresse aussi en partie à l'assassinat de nos deux collègues. Pas de façon précise, mais ça tombe sous le champ de compétences de cette commission-là aussi. Et parallèlement, il y a un groupe d'experts qui a été nommé, un procureur qui a été nommé pour appuyer l'enquête menée par les autorités congolaises. Donc vous avez vu, pour certains, vous avez pu rencontrer M. Petit, qui est procureur canadien, qui a été dépêché ici avec une équipe technique pour soutenir les efforts d'enquête qui sont en cours et les procès qui sont en train de se tenir à l'actif et géré par la justice congolaise. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, parce qu'en réalité, mon bureau n'est pas impliqué dans ces enquêtes-là. La procédure est en cours, les enquêtes sont en train de se mener. Le procès qui était en cours a été interrompu pour permettre réellement la participation de cette équipe qui a été dépêchée par New York pour appuyer l'équipe du parquet militaire dans les enquêtes concernant la mort de nos deux collègues. Merci.
Ok. Oui, je vais vous donner la parole après la dame.
Bonjour, c'est Mireille Boyer du compte des ICM Online. Monsieur, vous venez de parler des droits de l'homme sur votre rapport et il y a quelques évolutions citées là. Ouais, pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de quoi. L'évolution, c'est les droits de l'homme ici en RDC. C'est que j'aimerais bien savoir si vous avez d'autres stratégies ou quelles sont les mesures ou stratégies que vous pouvez prendre et puis pour que les droits de l'homme soient vraiment totalement respectés ici en RDC. Merci.
Merci, merci Madame Mireille. Je voudrais dire que concernant les stratégies à mettre en place, cette question est revenue longuement aussi au cours de la session du dialogue interactif à Genève où le gouvernement congolais a reçu des questions concernant un peu qu'est-ce qu'il fallait faire pour davantage améliorer la situation. Je crois que c'est quelque chose qui, une situation à laquelle nous réfléchissons et tout ce que nous faisons ici contribue un peu à améliorer la situation des droits de l'homme. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre travail d'enquête, d'établissement de rapports, de plaidoyer, d'appui technique participe à l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Il ne s'agit pas juste de constater les manquements. Nous travaillons, et c'est ce que j'ai dit, c'est cette partie-là est moins visible. Quand nous constatons des insuffisances, des violations des droits de l'homme sur le terrain, nous essayons d'analyser quelle est la cause véritablement de ces violations. Si c'est un manque de formation, un manque de compréhension des règles et des normes, est-ce qu'il ne faudrait pas élaborer des législations qui puissent permettre davantage aux individus d'être protégés, élaborer et renforcer le standard de protection, du système national de protection en général, est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer les capacités de la justice pour qu'elle lutte davantage contre l'impunité? C'est ça. Notre travail de rapport est une étape vers l'identification du problème pour pouvoir y apporter des réponses. Donc c'est une approche stratégique. Donc c'est tout le travail à faire derrière avec les différentes institutions que j'ai indiquées et qui consiste à les accompagner dans l'élaboration de règles, de normes, l'initiation d'enquêtes judiciaires, mais de l'organisation aussi de procès, mais également dans les formations et le renforcement des capacités des services de sécurité et des forces de défense. Donc, il faut redoubler l'effort parce que nous n'avons pas encore atteint un niveau critique, c'est ce que j'ai dit ici tout le temps. Nous n'avons pas atteint le point critique où on peut dire qu'on a atteint un niveau d'irréversibilité. Il faut, c'est un travail continu. Le contexte est quelque peu volatile et crée des difficultés pour en termes de respect des droits de l'homme. C'est, vous avez vu, hein, il y a une insécurité, l'activisme des groupes armés à l'Est, mais aussi le contexte électoral. Vous avez différents deux facteurs qui aujourd'hui expliquent le comportement que nous notons de la part des forces de sécurité et de défense et qui mérite définitivement de notre part davantage de surveillance et de communication et de plaidoyer en vue réellement l'adoption de mesures appropriées pour infléchir les tendances que nous observons. Mais nous y travaillons. Merci beaucoup.
Je vais revenir vers vous. J'avais promis la parole.
Nikez Mouzani, Afrique Echo et Carmel Media. Monsieur Abdoul, je constate que vous jubilez déjà après avoir obtenu les rapports d'enquête de février et vous pensez que ça pourra maintenant peut-être arrêter cette hémorragie. Mais je suis en train de me poser la question. Vous avez déjà dans la résolution 2348 une recommandation de faire appliquer cet accord de 31 et vous vous êtes cassé la gueule. Maintenant, vous vous sentez encore à l'aise que vous allez tout faire pour que les recommandations de cette commission soient appliquées et surtout poursuivre les auteurs. Mais ma question est la suivante. Dans le fonctionnement des forces de l'ordre, il y a les exécutants et les donneurs d'ordre. Vous dites que les auteurs seront poursuivis. La police a un chef, l'armée aussi. Si Jean-Pierre Bemba est là où il est, c'est parce qu'il est le chef des armées qui ont fait ce qui s'est fait. Est-ce que ici, parce que je vis même la représentante spéciale déplore la présence des militaires aux côtés de la police lors des répressions de ces marches. Puisqu'il faut poursuivre les auteurs selon l'enquête de février, est-ce que vous allez remonter jusqu'aux donneurs d'ordre et aux exécutants?
Merci, monsieur.
Monsieur Nikez, je ne vais peut-être pas utiliser les propos, reprendre certaines. Les termes que vous avez employés, que je trouve quelquefois inappropriés un peu dans le cadre de nos échanges, mais je dois dire, c'est la liberté d'expression, donc je vous le concède, je vous le reconnais. Ce que je veux dire, c'est que, et encore une fois je le répète, il ne nous appartient pas, nous, de situer des responsabilités, de dire, parce que nous ne sommes pas la justice, c'est ce que je suis en train de dire. Et je le répète ici à longueur de présentation de rapport. C'est à la justice de dire, de déterminer l'échelle des responsabilités. Déterminer les responsabilités nécessite des enquêtes un peu plus pointues. Nous collectons des informations, nous les analysons et nous mettons ces informations à la disposition des autorités. Si vous regardez le rapport qui est rendu public n'est pas détaillé, même si nous avons un rapport un peu plus détaillé qui comporte des éléments un peu plus précis que nous pouvons mettre entre les mains de la justice si elle se décide à poursuivre et à l'accompagner dans la détermination de l'échelle de responsabilité, de la chaîne de responsabilité et peut-être d'initier, d'aller un peu plus loin, d'organiser des procès. Donc, il appartient à la justice congolaise d'aller faire ce travail-là. Pas moi, ni la MONUSCO en tant que telle. Le mandat, il est clair. Quand il s'agira de communiquer publiquement sur, quand nous aurons constaté que la tendance est réellement, de façon très claire, un refus de poursuivre ou une impunité consacrée, là, Évidemment, nous avons d'autres voies qui nous permettent d'aller un peu plus haut dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de notre mandat en tant que bureau du Haut Commissariat pour davantage activer d'autres mécanismes qui existent et pour lesquels nous avons la légitimité de les activer. Mais pour l'heure, concédez-nous et donnez-nous, reconnaissez-nous au moins cette possibilité là que nous avons pour le moment de nous en limiter à la communication que nous faisons sur des incidents avec les insuffisances que ça peut comporter, qui sont apparentes, mais qui en réalité sont beaucoup plus détaillées, un peu plus fournies, mais malheureusement que notre méthodologie et nos principes ne nous permettent pas de rendre public pour des raisons évidentes de confidentialité, de protection des sources et des victimes et témoins. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Mais il faut reconnaître qu'il y a des... Nous ne sommes pas en train de jubiler. Ce qui s'est passé, j'ai dit, est un acte de portée, de haute portée symbolique. Parce que ça ne s'est jamais passé. On est passé d'un déni où on dit zéro, non, c'est pas vrai, c'est pas nous, à une reconnaissance de responsabilité. N'est-ce pas? Donc c'est un pas. On parle de c'est pas moi, ou c'est oui, c'est nous, et c'est un, deux, trois. Et qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire pour répondre. Il faut qu'on reconnaisse au moins quelque chose. Des personnes qui, dans l'anonymat, étaient blessées, avaient reçu des balles et étaient restées sans pouvoir se soigner de peur de se faire arrêter, sont sorties de leur cachette pour venir témoigner devant une commission et en retour ont reçu la possibilité d'aller se faire soigner. Et voilà, il y a des personnes qui ne pouvaient pas récupérer les corps de leurs proches et qui ont pu le faire. Pour ces personnes-là, c'est un grand changement. Ils ont été entendus. Ils ont au moins eu l'impression que quelqu'un les a écoutés, les a entendus. Et ce qui les intéressait sur l'instant, c'est de pouvoir aller enterrer mon frère, ma sœur, mon père, et de pouvoir me soigner parce que j'ai une balle dans le corps et je ne peux pas dormir le soir. Donc, pour cela, quelque chose a été fait. Donc, mais il faut faire beaucoup plus. C'est un début, c'est ce que nous disons. Nous ne sommes pas en train de jubiler. Nous ne sommes pas dans cette échelle d'attitude où on jubule, on est constant et réellement déterminé dans ce que nous faisons. Nous savons réellement quelles sont les limites de notre mandat et nous essayons de les assumer dans la mesure du possible. Okay, merci. Mais c'est quelque chose qui a été fait.
Ok, nous allons maintenant à gauche. Oui.
Oui. Vous allez aller après.
C'est moi qui suis en la parole, je vais donner la parole après. Nous avons
c'est une... Jean-Pierre Ilali Coco de Radio Capi. Monsieur Aziz, je voudrais revenir sur la commission mixte dont vous avez parlé tout à l'heure. Et il y a pratiquement deux semaines que cette commission, ou même les conclusions de cette commission étaient rendues publiques. Et parmi ces conclusions, il y a le fait qu'on puisse avoir des enquêtes judiciaires. Mais vous savez, dans notre pays, on prend des bonnes résolutions et on n'arrive pas à des conclusions. Est-ce que, pour aller vite, parce qu'il y a eu mort d'homme, est-ce que vous avez saisi, à votre niveau du bureau, vous avez saisi le ministre de la Justice ou même le procureur de la République pour que les choses aillent un peu vite? Si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce que vous comptez faire dans le tout prochain jour? Et parallèlement à cela, il y a une chose pour les victimes du 25 février, en Mbandaka, la justice a fait son travail, mais ici à Kinshasa, il y a Rossi qui est mort, et jusque-là, on ne sait pas à quel niveau se trouvent les enquêtes. Et comme je l'ai dit, ça n'avance pas toujours. Est-ce que le bureau conjoint, qui est comme une sorte de thermomètre de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, peut faire quelque chose pour que justice soit faite? Je vous remercie. Merci pour votre question.
Mon cher Elali, nous avons, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, appuyé et déjà travaillé. Nous sommes très très avancés dans la réflexion pour l'opérationnalisation des recommandations de la commission CM 31-21, la commission mixte. Je dois juste rappeler que nous avons donné un appui technique à cette commission-là. Parce que c'est une première, une commission dont beaucoup de membres ne savaient pas, devaient réellement recevoir un minimum d'encadrement. C'était pas facile. Et c'est pour ça que nous disons que ce qui a été fait n'est pas négligeable. Ce qui s'est passé est un fait important qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas le minimiser. On vient de très loin. On vient de trop loin. Donc il est important, je crois, de reconnaître ce qui est en train de se faire. Alors, le ministère de la Justice, nos rapports d'enquête sont transmis, c'est ce que je vous ai dit, sont transmis tous les mois aux autorités, y compris au procureur général de la République, également à l'auditeur général des FRDC. Nous avons des rapports, je crois, et ça je peux le dire sans risque de me tromper, des rapports privilégiés avec l'auditeur militaire des FRDC, qui fait, comme tout le monde le reconnaît, un travail remarquable depuis quelques années dans les poursuites. Les enquêtes judiciaires sont menées avec des difficultés parce que le contexte est très difficile, mais également qui parvient tant bien que mal à rendre des décisions. Et ces décisions sont exécutées. C'est pas facile, mais nous essayons d'aller de l'avant avec ça. Nous allons, comme j'ai dit, nous avons déjà fait une analyse de tout ça, des conclusions et des recommandations, et un plan d'action est en train d'être élaboré. Les discussions doivent se faire avec la ministre des Droits humains et le ministère de la Justice pour voir le type d'appui qui peut réellement être apporté pour rendre exécutoire et opérationnaliser les recommandations qui ont été faites. La ministre a fait une annonce qui vous a peut-être échappé, et c'est pas normal en tant que journaliste, je vous le dis. La ministre a fait devant la tribune du Conseil des droits de l'homme, l'annonce qu'il y avait une mesure, la levée de la mesure d'interdiction des manifestations. Quelle peut être la réaction d'un militant des droits de l'homme, de quelqu'un qui...
Alors, ne parlez pas tous à la fois.
Non.
Bon, attendez la réponse.
S'il vous plaît. La ministre a annoncé, je ne la défends pas, je ne représente pas le ministère des droits humains ici, non. Moi, je suis représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et clair, je ne représente pas le gouvernement annoncé devant le Conseil des droits de l'homme, devant les représentants de la communauté internationale, que la mesure a été prise de lever l'interdiction des manifestations publiques. Voilà. Quelle est la réaction du Conseil? C'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle. Nous accueillons avec beaucoup nous nous réjouissons qu'une telle mesure ait été prise. Évidemment, votre travail, ce serait en tant que journaliste d'aller vérifier où est le document qui lève de lever de la mesure d'interdiction. C'est ça. Mais on s'en réjouit. Voilà.
Ok. Je reste à ma gauche. De toute façon, pardon? Qui était précisé, s'il vous plaît.
Ah, s'il vous plaît. Oui, concernant l'activiste Rossi Mukenga, non, je pense que nous avons suivi. Je dois dire que personnellement, le jour où l'incident a eu lieu, moi-même j'ai été sur les lieux. J'étais à Lemba personnellement. J'ai été à la clinique là où le corps est passé avant d'arriver à la morgue. Et ce jour-là, moi-même, j'ai fait appeler un membre du gouvernement qui est venu, le directeur de cabinet du ministre des Droits humains, qui est venu sur les lieux pour rencontrer la famille de Rossi. Donc ça, je crois que la famille de Rossi peut en témoigner. J'ai été personnellement, je me suis déplacé pour aller à Lemba. J'ai été à la clinique Saint-Joseph, j'ai été également à l'hôpital où j'ai trouvé la famille qui était très très éplorée. Ce qui s'est passé est inacceptable et je pense que nous sommes largement exprimés là-dessus. Vous avez tout suivi qu'il y a une autopsie qui a été pratiquée sur le corps. On ne peut pas pratiquer une autopsie s'il n'y a pas une réquisition de magistrat, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une procédure judiciaire qui est ouverte. Et la ligne. Quand on pratique une autopsie sur un corps, c'est à la demande d'un magistrat qui demande, parce que c'est un acte qui participe réellement à faire la lumière sur la cause du décès. Donc, ça veut dire qu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons nous-mêmes insisté et essayer de voir si la famille était assistée. La famille bénéficie de l'assistance d'avocats. Donc quelque chose est en train de se passer et des engagements ont été pris au niveau gouvernemental, au moins au niveau du ministère des droits humains, d'accompagner pour que justice soit faite sur concernant le cas de Rossi. Donc nous allons tous suivre, c'est un cas très emblématique que tout le monde suit et nous travaillons là-dessus. Je ne peux pas évidemment d'ici donner les détails de qu'est-ce que nous faisons par rapport à ce cas-là, mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Ouais.
Voilà, il nous reste quelques poignées de minutes. On va prendre deux questions. Ok, on va vous donner la parole. Allez-y.
Merci pour la parole. Je me nomme Jean-Pierre Tshisekedi pour le journal Multimédia News. Parce que vous parliez du cas Roxy, j'en profite d'ailleurs beaucoup de rumeurs sur
qui. Étant donné qu'il nous reste beaucoup, très peu de minutes, soyez précis, soyez bref dans votre question.
Vous êtes en train de me bouffer les minutes, mais en même temps. Le cas Roxy, pourquoi on n'arrive pas finalement à remettre le corps de ce monsieur à sa famille pour que on puisse organiser des obsèques dignes de son nom? Plusieurs fois on annonce, on dit que c'est l'État qui ne veut pas, n'est-ce pas, libérer ses corps. Je ne sais pas, comme vous êtes impliqué personnellement, vous pouvez nous édifier un peu pour qu'on sache quoi, au fait. Alors, ma vraie question aussi, c'est...
Une seule question. Une seule question.
Terminez rapidement.
Merci. Je reviens aux droits de l'homme, violation. Vous savez, un principe de droit dit que ce qui fait la force du droit, c'est la sanction. Les enquêtes, c'est vrai, vous les annoncez plus de 10 ans depuis que nous sommes ici à la Monisco. Il y a des enfants qui sont nés dans les enquêtes, qui meurent dans les enquêtes. Rien n'a jamais été conclu. Mais est-ce que pourquoi ne réservez-vous pas la primaire aussi de vos enquêtes à la justice internationale? Parce que généralement, quand on parle de la justice internationale, dans notre pays, les choses quand même tremblent. Parce que peut-être ce sont ces mêmes-là qui sont impliqués dans ces violations des droits de l'homme. Merci.
Merci beaucoup. Concernant Rossi, je vous suggère de vérifier vos informations. Parce que moi, il m'a semblé avoir lu que le corps a été remis à la famille. Donc, je pense que... Voilà, le corps a été remis à la famille. Moi, samedi, je suis rentré hier de Genève, donc, mais j'ai quand même lu que le corps a été remis à la famille. Je vous prie de vérifier vos sources. Et comme j'ai dit, au moins on sait que l'autopsie a été pratiquée à la demande d'un officier, de l'auditeur militaire de Matete. Donc je crois que ça veut dire qu'il y a une enquête qui est en cours. Alors, des enfants sont nés dans les enquêtes, et on grandit et peut-être on vieillit dans les enquêtes et les enquêtes sont toujours en cours. Alors, comment pensez-vous que Bosco Taganda, Thomas Lubanga, tous ces gens sont retrouvés à la CPI? Sur la base de quelle information? Vous avez vous-même la réponse. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont en train d'être poursuivis par la justice internationale et certains par la justice congolaise. Je vous donne le cas du colonel 106. Je donne le cas du général Kakwavu, qui ont été poursuivis ici. Sur quelle base ils ont été poursuivis? Qui a mené les enquêtes? Un processus judiciaire peut évidemment être lent dans son cours, mais il finit toujours par arriver. Ne négligez pas ce qui est en train de se passer. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, vous ne jouirez jamais d'une impunité totale. Il y a des faits qui sont imprescriptibles. Les informations qui sont recueillies aujourd'hui peuvent servir dans 10, 15 ans, 20 ans. C'est ce que nous disons aux gens. C'est comme si la mémoire, les gens perdent la mémoire. Ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, je suis au pouvoir, mais je ne serai pas éternellement au pouvoir. Les choses évoluent. Vous allez vous retrouver un jour dans une situation, vous voyagez, vous avez une plainte qui vous attend quelque part. Parce que la justice congolaise a été défaillante, n'a pas ouvert. C'est le principe de la première responsabilité incombe à la justice congolaise. Mais en cas de défaillance constatée, n'importe qui, moi j'ai un enfant ou vous avez un enfant, vous avez été victime de droit de l'homme ici, vous avez disparu, on vous a tué. Votre enfant est à Paris ou il est dans un pays qui applique le principe de compétence universelle. Vous arrivez là, il y a une plainte qui vous attend, vous êtes arrêté. Vous en avez des cas vous avez beaucoup d'exemples comme ça. Des gens qui pensaient ne jamais se faire poursuivre et qui aujourd'hui sont poursuivis dans un pays. Donc l'impunité ne peut jamais prospérer, elle n'est jamais éternelle. Évidemment, aujourd'hui, des procédures peuvent faire obstacle à des sanctions, mais demain, dans 5 ans, 10 ans, le rapport de force peut changer et vous vous retrouvez poursuivi par une cour nationale, une cour internationale.
Ok, on prend les dernières questions. Donnez le micro, s'il vous plaît.
Merci pour la parole, Saint-François Katumba. Directeur, j'ai un souci. C'est l'explorateur, le journal. J'ai un souci. Il est bien beau de pouvoir lancer l'idée fondamentale par le gouvernement congolais concernant la commission mixte. Est-ce que pensez-vous que cette commission reste un processus à long terme ou à court terme? Je vous remercie.
Merci pour la question qui est très brève.
Oui. La commission est censée être une commission, elle n'est pas censée être permanente, hein, donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut aussi retenir. La commission n'est pas censée être permanente, elle a été créée pour se pencher sur des faits précis. Donc une fois que sa mission est accomplie, elle est censée disparaître, à moins que la commission décide d'étendre sa compétence à d'autres faits. Comme c'est le cas, la commission voulait se pencher sur les incidents du 25 février, mais aussi étendre sa compétence sur les faits liés au 31 et au 21, mais qui se sont passés en dehors de Kinshasa. Jusque-là, elle n'a travaillé que sur Kinshasa, elle n'a pas travaillé sur les incidents qui sont survenus à l'intérieur du pays. Mais c'est une commission qui est ad hoc, qui n'est pas permanente et qui, par définition, est censée disparaître après avoir rempli la mission qui lui avait été confiée.
Oui, avec votre permission, on va clôturer par une question d'une dame.
Merci beaucoup, c'est Mimi sur le TTCC TV. Monsieur Aziz, pour ne pas retourner aux propos de Madame Ouchebekwa, personnellement, est-ce que vous avez déjà remarqué le fait de la dite décision? Je ne pose pas cette question en vain parce que déjà le 25, l'Église catholique aura une manifestation. Voyons voir si cette décision-là va s'appliquer. Qu'est-ce que vous dites personnellement?
C'est ce que je dis. Je dis que nous, on a... Vous êtes des journalistes aussi. Vous êtes censés recouper des faits et faire des vérifications. Vous avez été formé pour ça. Donc la curiosité devrait vous pousser. Je vous dis, pour ceux qui n'ont pas suivi les débats, le dialogue interactif, la ministre Marie-Ange Mouchebekwa a fait la déclaration au nom du gouvernement pour dire que les mesures d'interdiction des manifestations ont été levées. Il faut. Moi, je vous dis, vous allez vérifier. Moi, je ferai ma vérification de mon côté. Donc, mais jusqu'à preuve du contraire, je suis en face d'un gouvernement. Moi, je représente une institution. Quand une institution me dit, un gouvernement me dit quelque chose, je ne doute pas de ce que le gouvernement me dit. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que j'ai dit. Donc, je vous prie de faire les vérifications. Le 25, c'est après-demain. Donc, comme on dit chez nous, ce qui se passe demain ne peut pas échapper aux yeux, n'est-ce pas? Ouvrons les yeux et voyons.
Voilà. Voilà, voici qui met fin à cette conférence de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aux auditeurs de Radio Okapi. Notre invité était M. Aziz Choi, le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à RDC. Je vous remercie.